Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission quotidienne Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur l'impact de la crise sanitaire sur le monde étudiant, tant au niveau du bien-être étudiant que de leur parcours universitaire. Et puis, nous ferons évidemment aussi un état des lieux des aménagements, des dispositifs d'aide possibles pour ces étudiants et étudiantes. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Benlassen, président de l'université Picardie-Jules Verne, et Anne Pinon, vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche d'Amiens Métropole. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être venu à Radio Campus pour échanger sur ce sujet avec nous. Je voudrais donc parler avec vous de tout ce qui touche les étudiants et le monde étudiant en général, plus particulièrement sur Amiens aujourd'hui. Donc la précarité financière qui est une réalité pour ces étudiants, l'isolement social, la perte de sens. Avec le système de cours en distanciel mis en place depuis la rentrée de septembre, sans compter le confinement donc du printemps dernier, la population étudiante est la population qui est restée le plus longtemps confinée. En décembre dernier, le service de santé universitaire a publié une enquête sur la santé mentale des étudiants et étudiantes de l'UPJV. Le résultat en est alarmant puisque les trois quarts des étudiants et étudiantes présentent des signes de détresse psychologique, 30% des signes de dépression avérés et près de 10% donc ont formulé des idées suicidaires. Et une réalité d'ailleurs qui s'est malheureusement concrétisée pour certains autres étudiants, comme on l'a vu dans l'actualité assez récemment. À partir de là, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous envisagez, vous, de faire au niveau de l'université et au niveau d'Amiens Métropole pour aider, accompagner ce monde étudiant en détresse dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir? Monsieur Benlassen, peut-être?
Alors, la motivation de l'étude, déjà, elle avait pour objectif de nous éclairer sur les mesures à prendre, faire déjà un état des lieux. Il faut juste savoir que cette étude, c'est la seule actuellement dans les universités françaises. Donc, ça a alerté aussi les décideurs pour voir l'état de santé mentale de nos étudiants. Donc, à partir de cette étude-là, bien sûr, on a réfléchi avec le monde politique qui nous entoure, notre territoire. On a réfléchi également avec l'État sur les dispositifs d'accompagnement. Alors aujourd'hui, au niveau de l'université, nous sommes à peu près 32 000 étudiants. Sur les 32 000 étudiants, nous ne disposions que d'un poste et demi en psychologie, en accompagnement psychologique. Donc on a mis des hotlines en place. On a recruté un poste de psychologue en plus et on a conventionné avec d'autres psychologues qui nous accompagnent, à peu près une dizaine, sur Amiens. On a conventionné avec une maison de la santé au niveau de Creil et on est en train de travailler avec les autres antennes. Ça, c'est la partie, je dirais, accompagnement. Mais ce n'est pas suffisant. Soyons clairs, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres choses, j'appelle ça, d'autres secousses qui vont venir. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur le côté misérabiliste de l'histoire. J'aimerais bien qu'on donne aux étudiants aussi des perspectives. Donc on a pensé à créer des ateliers de création artistique avec des artistes résidents. On a ouvert 9. Notre objectif, c'est d'aller au-delà. Une quinzaine à peu près. On a ouvert également des activités sportives. On a discuté avec le président de région et avec Amiens Métropole pour disposer de salles importantes. Et Anne reviendra là-dessus pour qu'on puisse créer du lien, des activités, bien sûr, moyennant les règles sanitaires. Hein. Tout ça... Évidemment, ça se fait. Et après, on travaille, c'est ce qu'on essaie de faire, les projeter en travail sur la notion de stage, sur la notion, ce que j'appellerais moi, la rentrée prochaine. Comment on va travailler la rentrée prochaine? Parce qu'on aura plein d'interrogations. Je reviendrai en détail.
Alors, en effet, vous l'avez dit, cette crise, elle dure. Hein, ça fait maintenant un an. Les étudiants ont subi deux confinements. Je pense que le deuxième n'a rien à voir avec le premier. Et nous, il a fallu que nous puissions nous adapter à cela rapidement, être réactifs et travailler avec nos partenaires, avec tous les partenaires qui accompagnent ces étudiants sur l'agglomération amiénoise. Donc on a travaillé sur plusieurs choses. On a travaillé en effet sur une aide psychologique avec un numéro de téléphone, avec une ligne en continu. On a aussi travaillé sur les aides alimentaires, qui, elles, sont une aide concrète, puisqu'il va y avoir 5 aides alimentaires auprès des épiceries solidaires 5 fois dans l'année, en tout cas pour l'année qui arrive. Nous allons aussi pouvoir les accompagner dans dans tout leur parcours, en tout cas vers l'emploi. Parce que, comme l'a dit le président de l'UPJV, il y a aussi, pour nous, l'obligation de les accompagner, de se projeter dans leur futur. Donc c'est leur futur de vie d'étudiant, mais aussi leur futur après pour rentrer dans la vie professionnelle. Elle est d'autant plus compliquée en ce moment. Donc Amiens Métropole a tous les ans organise un stage dating. Cette année, évidemment, il n'a pas pu avoir lieu dans les conditions habituelles, mais on a pu organiser un stage dating mi-février avec 35 entreprises, 200 offres de stage. Il y a eu de nombreux rendez-vous et donc le but est vraiment d'essayer d'être réactif, proposer des nouveaux modes de rencontres. C'est important pour eux qu'ils puissent se projeter. Donc évidemment, trouver un stage déjà dans un temps on va dire normal, c'est déjà pas simple pour certains, quand ils n'ont pas de carnet d'adresses, de réseau. Donc on essaye habituellement déjà de les accompagner. Là, encore plus aujourd'hui, on doit être au rendez-vous pour les soutenir dans cette démarche de professionnalisation, d'aller vers l'emploi, et puis simplement aussi d'avoir un stage dans le cours de leurs études.
Et donc vous n'avez pas pu mettre en place le stage dating, mais est-ce que vous avez d'autres pistes du coup à venir là, pour les prochaines semaines ?
Alors, ce stage dating, il a eu lieu, hein, mais en visio, en fait, en virtuellement, il a eu lieu. Il y a pu avoir des nombreux rendez-vous. Les entreprises qui étaient là, donc je vous ai dit, une 35 à peu près entreprises qui étaient présentes, en rendez-vous virtuel, ont pu déjà mener des premiers entretiens avec les étudiants. On fera le bilan de ce stage dating. S'il faut, en tout cas, on continuera à approfondir cette démarche d'accès au stage et à la professionnalisation. Nous, on a rencontré avec le président de la métropole, avec Alain Geste, les étudiants mi-février. On les a rencontrés afin qu'ils puissent nous faire part ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils attendaient de nous. Donc c'est vrai qu'il faut, encore une fois, les aider à se projeter. Ils nous ont aussi expliqué leurs difficultés du quotidien. C'est ce qu'a dit le président. Le but, c'est aussi de favoriser le lieu de rencontre. Voilà, comment aujourd'hui, quand on est jeune étudiant à Amiens, comment on fait pour pratiquer la culture ? Comment on fait pour pratiquer le sport ? Comment on fait simplement pour être ensemble, tout en respectant les règles sanitaires ? Donc ça, on les a entendus. Avec Alain Geste, on travaille sur cette piste et avec le président du PJV et ses services pour pouvoir travailler sur ces lieux de rencontre. On a aussi un travail à faire. Ils nous ont interpellés sur la question des transports. Donc Amiens Métropole a annoncé la semaine dernière que, évidemment, dans le contexte où ils ne sont pas en présentiel forcément tous à la faculté, on entame une démarche de suspension concernant les abonnements à Métis jusqu'à la fin de l'année universitaire sur les trajets donc domicile-université. Donc ça, c'est une prise en charge intéressante. Il faut juste qu'ils saisissent une demande express au niveau d'Amétis pour pouvoir bénéficier de ce soutien financier. Après, c'est des petits coups de pouce dans leur quotidien, en tout cas.
Le 16 février dernier, donc Anne-Sophie Barthès, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, est venue dans les locaux de l'UPJV pour rencontrer également les étudiants et les étudiantes. Qu'est-ce qui est ressorti de cet échange-là, Monsieur Benansal? Il me semble que vous aviez parlé notamment de favoriser une offre culturelle et sportive intense, que vous avez évoqué un petit peu en pointillé juste avant. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ce qui est prévu pour le mois de mars, notamment?
Alors, justement, tout à l'heure, ce qu'avait dit Madame la vice-présidente, à juste titre, le mérite de cette étude-là, c'est qu'elle a convoqué dans le discours l'étudiant. On n'a pas parlé d'étudiant avant le 14 janvier. Évidemment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les résultats sont assez affligeants, je dirais même dramatiques. Et du coup, maintenant, ça intéresse les tutelles. Nos partenaires étaient toujours là depuis le mois de mars. On a travaillé ensemble, on a travaillé sur les masques, on a travaillé sur pas mal de choses. Donc le partenaire, je parle, le territoire, était là. À chaque fois qu'on l'a sollicité, ils ont répondu présent. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que dans le discours politique officiel, on s'adresse aux étudiants. On s'adresse aux étudiants sur leur situation, mais surtout, on les projette. Parce qu'ils n'ont pas compris. Je vous donne quelques exemples. Les études montrent bien maintenant que, simplement, chez nous à Amiens, 0,225% d'étudiants ont été contaminés. Ça fait 72 cas sur 32 000. Vous voyez ? Ils ne comprennent pas, les étudiants ne comprennent pas qu'on ferme après ça. La deuxième chose, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on a permis au BTS et au prépa de faire cours en présentiel, alors qu'eux ne peuvent pas. Et ils concourent au même concours. Donc il y a une espèce de rupture d'équité et d'injustice. Ça, c'est le ressenti. Donc il faut accompagner ça, bien sûr. Alors, lorsque Mme Barthès est venue, bien sûr, ce qu'on a essayé de faire, ce sont trois temps importants. On a fait un temps avec les étudiants Relais Santé, qui accompagnent, qui font du porte-à-porte. Ça, c'est un dispositif monté avec la métropole et le CROUS. On fait du porte-à-porte, on explique aux étudiants les dispositifs. Les hotlines, ceux qui s'occupent des hotlines et ceux qui s'occupent du tracing. Il fallait absolument qu'ils voient quand même qu'il y a quelque chose de fait au niveau de l'université. Et nous, sincèrement, le but de cela, c'est de valoriser nos étudiants, leur dire, vous avez peut-être pas fait une année comme tout le monde, mais vous avez développé des compétences qu'il faut faire maintenant, valoriser demain.
Quel type de compétences ?
Par exemple, dans l'organisation de l'aide, dans l'accompagnement, ce sont des choses qu'on a trouvées, des mathématiciens, des physiciens, des médecins, qui font autre chose que maths ou médecine ou pharma ou peu importe. Ce que je veux dire par là, aux juristes. Donc, voilà des étudiants qui étaient au début inscrits en droit et qui se retrouvent en train de faire du relais santé. Donc, tout ça, on leur a dit, ça s'appelle des compétences transversales, il faut les valoriser. Et la deuxième chose qui était importante, c'est de dire, parler à l'État, mais parler derrière votre posture. Ce que vous vivez, c'est important, avec la fragilité, avec... Alors, ce qui est ressorti de ça, c'est que d'abord, Sophie Barthez a été assez enchantée de cet échange-là, parce que les étudiants ont avancé les choses librement, en disant ce qu'ils vivaient. Il y a une phrase, moi, qui m'a frappé à titre personnel, qui peut aussi vous frapper, c'est qu'une étudiante a dit, moi, j'habite 18 mètres carrés, ce qui me fait plus la peine... c'est que c'était mon espace de repos. C'est devenu mon espace de travail. Donc, ça lui permettait de faire des études, de rentrer dans ses 18 mètres carrés, et elle était chez elle, elle faisait autre chose. En tout cas, cette séparation-là, symbolique, est cassée. Donc, nous sommes sortis avec trois grandes décisions. Donc, nous allons mettre en place un observatoire de la santé de la vie étudiante. Cela nécessite, bien sûr, des moyens. Donc, l'État s'engage à nous accompagner sur cet observatoire. D'ailleurs, on a lancé deux études en plus par rapport à celle-là.
Sur quel thème ?
La première étude qui nous intéresse, ça, c'est les addictions, parce qu'on a aussi à étudier cette problématique-là. La deuxième étude qui est importante, on a un taux de décrochage qui n'est pas très élevé, en fait. D'habitude, nous sommes autour de 30% dans toute l'université française. Là, on est 2 points, 3 points de plus. On veut comprendre pourquoi ils n'ont pas décroché, parce que ça peut nous renseigner demain sur la façon dont on doit travailler avec eux. Peut-être on mettra le numérique comme support de soutien. On mettra le numérique comme méthode d'évaluation en plus pour aider les étudiants. Peut-être il faudrait réfléchir sur d'autres voies. Donc il faut qu'on apprenne, il ne faut jamais rater une crise. Il faut aussi apprendre de la crise. Et le troisième point, c'était réenchanter l'université, c'est-à-dire trouver des messages positifs, lancer le culturel, lancer le lien. Je crois que cette crise nous a montré bien que les étudiants ne viennent pas que pour les études. Ils viennent pour les études. Mais il y a une petite rupture avec la famille qui leur permet de se structurer, de faire des choix. Parce que là, ils sont libres de sortir, de faire leurs devoirs. Donc, ça s'appelle tout simplement se structurer en tant qu'adulte, faire des choix. Donc, là-dessus, on veut aller sur ce terrain-là. Et là, justement, on a fait appel au territoire, à Amiens Métropole, à la région, pour nous accompagner sur ces axes-là. Comment réenchanter, comment être positif, comment leur proposer un certain nombre de choses. Je terminerai là-dessus. Pour nous, à l'université, l'emploi du temps, le calendrier est stable. Il ne bougera pas, quelles que soient les mesures. Nous avons prévu le zéro présentiel, le 100%, le 50%, le 20%. Donc on s'est organisé comme ça pour préparer la rentrée. Parce qu'il faut qu'on projette nos étudiants sur la rentrée. Et sur la rentrée, il y a trois problématiques. Il y a le sentiment d'avoir un diplôme, je dirais faible, donc on fait de la consolidation, on va favoriser l'emploi étudiant, et on va encadrer les étudiants, les accompagner, faire du renforcement disciplinaire. Le deuxième point, c'est les étudiants qui ne trouvent pas de travail. Ceux-là, on souhaite les inscrire dans des DU, dans des diplômes d'université, pour leur donner une nouvelle compétence, managériale, création de start-up, entreprendre pour apprendre, donc on va créer une certification de langue. Donc là-dessus, on va travailler... ça, c'est la deuxième offre. Je préfère les voir en formation plutôt que demandeurs d'emploi. Le troisième point, pour les étudiants qui trouvent un emploi, on peut trouver un accord avec l'entreprise pour les récupérer au moins une fois par semaine pour les consolider sur des disciplines qui leur servent justement dans leur emploi. Donc tout ça est en réflexion. Nous avons réfléchi avec les syndicats patronaux, avec le territoire, pour pouvoir les accompagner. Voilà.
Lors d'une manifestation le 23 janvier dernier, les étudiants et étudiantes se sont donc mobilisés pour dénoncer leurs conditions de vie et d'études. À cette occasion, on a rencontré donc des étudiants de la Fédération des associations étudiantes Picarde qui réclamaient justement un financement majeur de certaines filières qui sont en difficulté, notamment dans leur accès, mais aussi dans la qualité des formations. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de la part de l'université ou d'Amiens Métropole éventuellement d'aider certaines filières qui sont très impactées particulièrement par cette crise sanitaire?
Alors pour nous aujourd'hui, je parle pour l'exercice 2020 budgétaire, cette crise sanitaire nous a coûté à peu près 1 million d'euros. On a distribué l'équivalent de 700 ordinateurs aux étudiants, on en a même distribué aux jeunes enseignants. On a distribué l'équivalent de 500 clés 4G. Pour les étudiants salariés, aussi bien à l'UPJV qu'à l'extérieur de l'UPJV, c'est-à-dire que c'est des petits boulots, on leur a alloué une aide de 250 euros, et les étudiants en situation de précarité, sur dossier bien entendu, ils perçoivent 70 euros par semaine. Donc en fait, ce travail-là, on l'a fait. Maintenant, vous avez raison d'évoquer, parce que je les ai reçus à l'issue de cette manifestation, le travail qu'on va faire sur les formations, c'est la deuxième étape sur laquelle on va se consacrer. On ne voulait pas rester simplement sur la précarité étudiante. Je suis désolé de le dire un peu, ce n'est pas la crise. Elle existait avant. La crise a mis juste une loupe dessus. On sait très bien que 400 euros, c'est le maximum de bourse, ne permet pas à un étudiant de bien vivre sur Amiens. C'est-à-dire qu'il y a derrière les parents. Il faut un soutien. Je ne parle pas des bourses à 150 euros, elles existent. Donc là, il y a un travail à faire, je crois, sur ça, accompagner les étudiants, mais aussi les parents. On s'est rendu compte aussi que les parents sont aussi inquiets. On a des coups de fil aussi des parents pour savoir comment ça va se passer l'année. Donc on essaie de stabiliser et de projeter tout en restant positif. Cette génération, tout à l'heure, Anne l'a dit, en fait, la crise nous a pris de court, pour être honnête. Il fallait qu'on se réinvente en permanence. Tout n'est pas parfait, soyons humbles, mais en tout cas, elle nous a donné suffisamment de force pour que cette génération qui a vécu un truc extraordinaire, moi, ma génération n'a pas vécu ça, mais eux ont vécu quelque chose d'extraordinaire, on veut la rendre positive malgré tout, leur dire que vous n'avez pas fait d'effort pour rien, qu'on est là, et qu'on va devoir aussi se questionner sur notre façon de faire.
Parce qu'il y a quand même ces termes de génération sacrifiée qui résonnent un peu partout. Est-ce que vous pensez vraiment également aussi, Anne Pinon, que ça peut être quelque chose de positif, qu'on peut en ressortir des choses positives, et si oui, lesquelles?
En tout cas, ils sont des habitants, ils vivent à Amiens, voilà, ils sont vraiment partie prenante de la vie de la cité, donc on a bien conscience qu'il faut être à leur côté, entendre leurs difficultés, encore une fois, essayer d'être réactif. Il faut aussi l'importance de garder du lien aujourd'hui, ne pas les laisser isoler. Et donc tout cela, je pense qu'on l'a tous bien entendu. C'est vrai que ce soit l'UPJV ou la Métropole, on a mené conjointement des études qui, de toute façon, montraient déjà les difficultés des étudiants. Et cette crise n'a été qu'un accélérateur ou une caisse de résonance, en tout cas, sur leurs difficultés. Donc évidemment, on entend bien tout cela. On essaye d'agir en partenariat. Maintenant, il faut les accompagner sur les aides alimentaires, sur l'écoute, sur leur projet d'étudiant, leur projet de vie. C'est ça qui est important. Et puis surtout, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que nos étudiants sont toujours sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, mais on s'est aussi rendu compte en échangeant avec eux qu'il y avait un problème aussi d'accès à l'information. Voilà, alors il y a peut-être beaucoup d'informations, il y a peut-être aussi de nombreux dispositifs au niveau de l'État, de l'université, d'Amiens Métropole, de la région. C'est parfois difficile pour eux d'avoir accès simplement à l'information. Les dispositifs existent. Et nous, on a été par exemple très, très interpellés avec Alain Gess, c'est que quand on a évoqué aux étudiants la possibilité de bénéficier d'une aide alimentaire tous les 15 jours de 30 euros, la plupart que nous avions en face de nous ne connaissaient pas cette aide. Donc on s'est dit comment on peut faire pour qu'ils puissent avoir accès à l'information. Donc on a revu la page du site web d'Amiens Métropole pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des informations. Et c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que nos jeunes étudiants sont pourtant les plus assidus sur les réseaux, ils sont normalement à un instant T, ils ont toutes les infos. Et on s'est rendu compte avec cette crise que bien non, ils ne connaissent pas toujours les dispositifs. Donc à nous aussi de faire qu'on puisse leur amener cette information, qu'ils puissent avoir connaissance des dispositifs qui les aident dans leur quotidien. Et voilà, alors si cette émission peut être aussi l'occasion de rappeler qu'ils peuvent aller sur, j'imagine bien sûr, sur le site de l'UPJV, sur le site d'Amiens Métropole, on a essayé de simplifier les choses pour qu'ils puissent avoir connaissance de tous les dispositifs, de tous les numéros de téléphone, pour avoir accès très simplement à cette information.
Peut-être qu'il faudrait centraliser davantage les informations dans ce cas-là pour éviter qu'elles soient éparpillées sur plusieurs sites internet. J'imagine que les étudiants ne vont pas forcément sur le site d'Amiens Métropole toutes les semaines, par exemple.
Alors,
On peut imaginer, Anna a tout à fait raison, la multiplication des portails font que l'information se disperse. On peut imaginer des renvois sur les sites des uns des autres. On fasse travailler la com des deux structures pour qu'il y ait des renvois. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase qui est un point important pour les étudiants, c'est-à-dire génération sacrifiée. Elle l'est de fait, mais elle le sera si on ne fait rien. Elle l'est de fait parce qu'elle subit. Elle le sera si on ne fait rien, dans le sens où il y aurait une rupture. Là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de dire, c'est que l'étudiant n'est pas tout seul, l'université n'est pas toute seule, l'université, c'est une université de territoire. Tout le monde la porte. Il faudrait quand même que je rappelle, je pense que vous le savez, que les restaurateurs se sont mis dans cette chaîne de solidarité, à leur propre initiative. Donc c'est important que je le dise, à Doc Café, le 31, le Quai, le Vivier, et il y en a d'autres qui veulent se mettre. Ils veulent savoir juste que si le fameux repas à 1 euro va venir ou pas, s'il y a des problématiques. Il y a aussi la banque alimentaire, il y a l'épicerie solidaire. Donc en fait, il y a quelque chose de positif à dégager. La crise, il ne faut pas la rater. Il faut apprendre dans cette crise, ce qui rend les choses positives.
Et quels seraient donc les enseignements à tirer de cette crise-là?
L'engagement solidaire, l'engagement dans la cité. Je parle d'Amiens, mais je parle de notre ville. Un étudiant, il est là pour étudier, mais il est là aussi pour se structurer, pour aussi nourrir un peu le territoire dans lequel il est. La ville d'Amiens, par exemple, elle offre un certain nombre de choses aux étudiants. C'est très bien que les étudiants s'engagent dans ces actions-là. Amiens, c'est la capitale européenne de la jeunesse. Voilà un levier dans lequel on peut évidemment s'engager. La deuxième chose, on a démarré une expérience que je trouve excellente avec les étudiants Erasmus qui est passée une semaine dans une école maternelle avec leur langue maternelle. Ils parlent polonais, qui parlent anglais, qui parlent allemand, espagnol. Je pense qu'il faut qu'on fructifie le passage d'un étudiant chez nos Amiens. Ensuite, on veut travailler sur l'engagement solidaire, citoyen, de nos étudiants. J'ai discuté avec le président du département qui souhaiterait mettre en place du soutien scolaire, donc de l'emploi étudiant soutien scolaire, dans les collèges. Ce sont des choses qu'on peut imaginer ensemble. Et là, l'étudiant vient bien sûr pour étudier, part avec un diplôme, mais part surtout avec une expérience humaine. Et je crois que dans cette crise, ce qui ressort, c'est que les étudiants, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, ne sont pas seuls, ils sont dans un territoire. Ce territoire fait de son mieux, se réinvente, parce que, encore une fois, on a été pris de court. Hein. On savait que c'était un tremblement de terre. On est plus ou moins proche de l'hypercentre. Mais l'idée, c'est d'amortir les secousses, par la solidarité, par la projection, par des projets pour eux, parce qu'après tout, un étudiant est là pour aussi trouver un travail derrière. Donc c'est tout ça qu'on est en train d'imaginer.
Puisque vous parlez de solidarité, je rappelle donc qu'il y a des distributions alimentaires qui sont pour les étudiants et étudiantes organisées, comme vous l'avez dit, par le Haddock Café, et par le Marché Solidaire Amiennois et la Fédération des Associations Étudiantes Picardes et l'Agorae régulièrement. Vous proposez donc des repas aussi à 1 euro avec le Crous. À raison de 2 repas par jour. Donc c'est des repas qui sont à emporter pour l'instant, mais il me semble que les restaurants universitaires vont réouvrir aussi ou sont en train de réouvrir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en ce moment ?
Dans un premier temps, le projet était d'emporter les repas. Là, ils s'orientent davantage vers l'accueil des étudiants. Nous, dans notre façon de faire, on a souhaité ne pas laisser les étudiants sortir. Ils vont chercher les repas et ils restent à l'université. On ne voulait pas qu'ils se retrouvent à 10 dans un appart. Parce qu'il ne faisait pas beau, ils n'ont pas où aller. Donc, non, en tout cas, on a décidé de les accueillir même pour le repas. Mais on attendra le 8 mars pour un petit peu évaluer les choses, comment elles se déroulent. Et ensuite, il y a d'autres opérations que nous préparons, du plat emporté, parce que l'Agorae, un exemple, on a amplifié les aides, mais elle ne peut pas tout absorber. Donc on va faire appel à l'engagement étudiant pour accompagner cela. On n'a pas voulu que les étudiants reçoivent, en fait. On a voulu que les étudiants prennent en main cette difficulté, la gèrent eux aussi. Ça les valorise. Ils ne sont pas là juste pour récupérer un repas. Mais on leur a dit, voilà, vous pouvez venir, mais vous pouvez aussi nous aider et vous engager là-dessus. C'est important qu'ils aient ce regard positif.
Deuxième, ça permet de lutter contre l'isolement social, peut-être aussi ?
Plus que ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans la position de réception, ils se sentent un peu diminués. Lorsqu'ils sont dans une situation de partage, ça les renforce. Ils se disent, je donne un sens à ce que je fais. Voilà. Deuxièmement, encore une fois, la Picardie est connue pour ça, même si le Picard est taiseux, elle est généreuse. Donc, il a suffi d'un claquement de doigts pour qu'il y ait autant de générosité. On a des courriers magnifiques, des gens de la campagne qui proposent de recevoir les étudiants chez eux dans leur ferme, des Aménois qui souhaitent avoir deux ou trois étudiants à prendre en charge durant la crise. On a de tout, en fait. Et je pense qu'on ne dit pas assez aux gens qui sont magnifiques et que dans cette crise, elle a révélé ça. Vous voyez ? Donc, c'est des gens qui veulent rester anonymes, ils ne veulent pas qu'on les mette sur site. Et tout ça, nous, on l'expérimente dans les services, dans la vie étudiante. On est en train de l'expérimenter et on essaie de dire aux étudiants, on le dit aux étudiants, bien sûr, on ne donne pas les noms, mais on est, même la gendarmerie propose, par exemple, des stages, propose des ateliers de sophrologie. La police nationale réfléchit sur des actions citoyennes de prévention. Les pompiers réfléchissent. Donc, en fait, tout le monde se met autour de la table pour pouvoir proposer quelque chose et dire, voilà, moi aussi, j'ai mon mot à dire sur l'état de santé mentale. Donc, en fait, c'est collectivement qu'on est en train de le faire. Il a suffi d'un petit rapport de 6 pages et ça a déclenché tout ça, en fait.
Peut-être revenir à un petit point un peu plus concret aussi sur comment ça se passe pour l'organisation des cours à l'université. Il y avait une des revendications de la Fédération des associations étudiantes Picard qui était un retour au présentiel massif dans les cours pour lutter contre le décrochage scolaire justement et l'isolement des étudiants. Où est-ce que c'en est à ce niveau-là ?
Nous sommes pour le retour de toute façon. Il n'y a pas un président d'université, nous sommes 84, qui dit qu'il n'est pas pour le retour. Ce qu'on a, la réalité Picard est la suivante. Nous avons 54% de taux de boursiers et on a 25% de nos étudiants qui ne viennent pas de nos académies. On a Paris, on a même le sud de la France et ainsi de suite. Donc ce qu'on a fait, on a dit oui au présentiel et on a lancé une enquête. L'enquête, le premier jour, quasiment 8000 réponses, 24 heures. Donc l'enquête a révélé au final qu'il y a 40% qui souhaitent revenir. 60 ne souhaitent pas. Alors, ne souhaitent pas parce qu'ils ne veulent pas. Soit ils ont rendu leur chambre, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Soit ils ont préféré, au lieu de se confiner dans 18 mètres carrés, se confiner chez leur famille. D'autant plus que finir un cours à 18h avec un couvre-feu à 18h, c'est compliqué. Ou bien ils sont fragiles. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont fait que les étudiants ne peuvent. C'est pour ça qu'on ne les a pas obligés à venir. Contre les 40% qui restent, on les a tous accueillis et on essaie de projeter ces étudiants-là tous parce qu'on a demandé à toutes les composantes d'élaborer des programmes avec 2 heures de relâche, même pour les étudiants qui sont à distance. Il faut qu'ils sortent, qu'ils puissent faire autre chose, qu'ils puissent un petit peu respirer et ainsi de suite. Donc pour le moment, je vous dirais que ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas 100%. On essaie de positiver au maximum ce que nous avons. Il y a eu des problèmes de transport quand on a repris, donc on n'a pas eu les 40% tout de suite. Hein. Mais ça vient petit à petit. Mais en tout cas, on le sent, il y a eu une réappropriation. Ils se sont réappropriés les lieux parce qu'ils viennent. Je vous donne juste un exemple. Les chiffres de la bibliothèque sont énormes. Sur la bibliothèque santé, avant les vacances, elle a fait 4790 étudiants en un mois, donc c'est sur rendez-vous. Ça veut dire que les étudiants viennent et préparent leurs cours et préparent. Donc voilà un petit peu. Maintenant pour la rentrée, je suis désolé de parler de la rentrée parce que c'est important qu'on donne ce cap. La rentrée, nous avons les 3 scénarios. On a le présentiel à 100% si tout le monde se fait vacciner, mais on portera toujours des masques de toute façon. On a prévu le présentiel à 50%, mais en tout cas la rentrée se passera et elle est déjà en préparation. On va essayer de communiquer au maximum là-dessus. Parce qu'il faut les projeter sur la rentrée, de savoir ce qu'ils veulent à la rentrée.
D'autant que c'est en ce moment que les étudiants s'inscrivent, les jeunes s'inscrivent sur Parcoursup aussi pour choisir leur filière, choisir...
Oui, exactement. En fait, il y a un rapport assez bizarre hein, pendant la crise. On a fait un film qui projette de l'UPJV, juste un film de promotion. Et ce qui nous a étonnés, c'est que le premier jour d'ouverture, 20 000 vues. C'est énorme. Ils se sentent attachés à l'université. Je vous ai dit tout à l'heure, le sondage de présentiel, 8 000 réponses en 24 heures, c'est très rare, vous voyez. Donc on essaie de les accrocher. Donc on a fait une GPO, journée porte ouverte, totalement virtuelle. On a atteint l'équivalent de samedi midi, 13 000 vues, 13 000 connexions entre les Zooms. Donc les gens, en fait, ont adhéré tout de suite à ça. On fait l'une des premières GPO de France. Après, les gens ont fait les GPO après nous, parce qu'on l'a ouvert avant Parcoursup. Elle est accessible jusqu'à la fermeture des inscriptions. Mais derrière, on va mettre d'autres choses pour pouvoir un petit peu les inciter à choisir, pour pouvoir faire aussi d'autres Zooms. Voilà, on est en train de réfléchir sur des rendez-vous pour les formations.
Merci beaucoup, Monsieur Ben Lassène, Madame Pinon. Je le rappelle, donc, vous êtes respectivement président de l'Université Picardie-Jules Verne et vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche d'Amiens Métropole. Toutes les informations sur les dispositifs d'aide mis en place par le CROUS, l'Université et Amiens Métropole sont à retrouver donc dans le podcast de cette émission et donc respectivement sur les sites internet des structures que je viens de citer. On fera un petit point aussi dans le podcast sur toutes les projections à venir, tous les événements qui pourront être mis en place au niveau culturel aussi pour les étudiants et étudiantes dans les mois à venir pour pouvoir terminer cette année scolaire de la meilleure façon possible. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h et à 18h comme d'habitude. À demain.